Bonsoir à tous.
Salut Alex.
Salut Pauline.
Salut.
Salut Max. Salut Pauline.
Salut Alex.
Bienvenue
salut
sur...
Max. Dans une réunion d'alcoolique anonyme.
Bienvenue Pauline dans ce deuxième live où tu participes avec nous. Ah, le premier étant celui de Noël.
Oui, c'est vrai. J'étais en train de me dire, attends, c'est un piège, mais oui, c'est vrai que c'était.
C'est totalement vrai.
Ah, merci de me recevoir, même si c'était, même si j'ai un peu tapé, enfin, j'allais dire taper l'incruste. Non, j'ai mérité ma place.
Bah non.
Tu as totalement mérité ta place, car Max, peux-tu rappeler pourquoi Pauline est là ?
T'as quand même gagné la première place sur le quiz d'Alan Menken, qui n'est toujours pas disponible sur YouTube et qui sera peut-être même jamais disponible sur YouTube ni sur ni en podcast, tellement il va être compliqué à monter. Donc oui, bravo pour ta première place sur ce quiz que tu as dû trouver tellement facile vu que tu as clairement écrasé tout le monde.
Bah, en fait, j'étais un peu carrie par les comédies musicales, on va pas se mentir, que ça m'a aidé.
Pauline, présente-toi, dis-nous qui tu es.
Bah, je m'appelle Pauline, 24 ans, je suis... Alors, je vais en profiter pour l'instant, tant que je peux le dire. je travaille chez Illumination donc pour faire des films d'animation. Et je suis aussi co-présentatrice du podcast Flan, Faut l'animer, qui fait aussi partie du Label et la Bête.
C'est un beau CV quand même. Surtout la dernière partie.
Impressionnant que ce soit une personne du Label qui ait gagné le quiz. Pourtant, il y avait quand même du monde. Il n'y avait pas que trois clampins. Quoi. Il n'y avait pas que toi, Curien et Nagla.
Si c'était pas moi, c'était Curien. Et si c'était pas Curien et moi, c'était Nagla.
C'est vrai, Nagla. Au final, ils ont tous gagné un truc.
Et ce qui fait que donc, on t'a laissé le choix du live de ce soir. Et tu as choisi donc.
Le film des Muppets, donc les Muppets Le Retour, qui est sorti en 2011.
Et nous allons pouvoir passer aux Muppets. Et on va commencer directement, donc les Muppets Le Retour en français, The Muppets en anglais. Et on va commencer par le contexte.
Et en québécois, les marionnettes.
Non.
Techniquement, c'est le Muppets Le Retour hein, en québécois, dans les faits.
Septième film des Muppets. Les Muppets, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des marionnettes. Oh, je vais en profiter, je ne pensais pas du tout sortir ça aujourd'hui. Un petit peu comme ceci, hein, d'accord. Donc, c'est même lui qui va parler. Attendez, oh là là, oh oui, putain, extraordinaire ce qui se passe.
Oh oui, vas-y, allez. Ça c'est très, très podcast, c'est génial.
Alors oui,
on
va faire notre description. Il a sorti petite marionnette.
Il fait du bruit, hein.
Oh,
oh. Le lapin, il fait la même chose.
Il fait squeak squeak quand t'appuies dessus.
Je mets la main comme ça à l'arrière.
Ah ouais, ok.
C'est vraiment un truc que j'utilise pour l'éveil musical. Donc j'ai une marionnette sur la main hein, pour le podcast, et c'est la marionnette que j'utilise pour l'éveil musical de temps en temps. Septième film des Muppets, des marionnettes créées par Jim Henson à partir de 1955 dans Sam and Friends, puis Sesame Street en 1969, et le Muppet Show en 1976. Pauline, bien sûr, tu m'arrêtes à n'importe quel moment. Enfin, tu arrêtes monsieur, hein, je sais pas comment vous l'appelez.
Pour corriger les conneries.
Je suis en train de dire que je connais pas les dates par cœur, donc je te fais confiance pour les dates. Hein, parce que...
Tu peux balancer n'importe quelle connerie, c'est pas grave. Allez.
Le Muppet Show appartient à la Walt Disney Company depuis 2004, qui produit deux films et deux séries sur Disney+.
Et des téléfilms qui sont sortis entre-temps, parce qu'il y a notamment eu... Le Magicien d'Oz, Very Christmas Muppet Movie et Santa's Letters to Muppets, un truc comme ça. Bref, un truc avec les lettres du Père Noël. Et donc, ouais, il y a eu 2-3 téléfilms en plus qui sont sortis à l'époque quand ils ne se croyaient pas vraiment aux Muppets. Et sachant que je me permets aussi vite fait d'interrompre, parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis une très grande fan des Muppets. Et en fait,
ceci explique cela.
En fait, ils voulaient à la base la Walt Disney Company a failli racheter les Muppets aux alentours des années début 90, fin 80, début 90, quand Eisner est arrivé. Et il y avait des discussions avec Jim Henson, ça se passait très bien et tout. Il a dit « Ok, je vous vends tout, sauf Sesame Street », parce qu'il voulait garder Sesame Street à part. Et en fait, ça ne s'est pas fait parce que malheureusement, Jim Henson est mort. Et donc, ça a totalement arrêté. Le projet de vente des Muppets a été totalement interrompu. Et c'est que, bah, en 2004, qu'ils ont finalement réussi à conclure l'accord. Mais tu vois, ça a pris presque 15 ans de plus par rapport à la date d'initiale.
C'est toujours très long les périodes chez Disney, où entre le moment où ils utilisent un peu un produit et le moment où ils arrivent vraiment à le racheter. Enfin, Star Wars, oui, ils utilisaient avec Star Tour, ils l'ont racheté quand, en 2010. Pixar, ils ont mis 10 ans avant de pouvoir vraiment, enfin, ouais, environ 10 ans pour pouvoir le racheter. Oswald, ils ont mis 100 ans, clairement.
Oui, bah, Oswald, c'est
vrai. Alors, ouais. Deux personnes vont proposer le conseil... Pardon, j'ai oublié que c'était lui qui parlait. Deux personnes vont proposer en 2008 l'un film Les Muppets à Disney. Ce sont Jason Segel, qui est plus connu sous le nom de Marshall Erickson dans How I Met Your Mother, et Nicholas Stoller, qui est entre autres le scénariste de Yes Man et de Les Années Campus, où d'ailleurs il travaille avec Segel. Le film Les Muppets est modestement appelé The Greatest Muppet Movie of All Time, à ses débuts. Puis The Cheapest Muppet Movie Ever Made. Donc, finalement nommé The Muppets, il est réalisé par James Bobbin. C'est son premier film. Il a auparavant travaillé pour la télé britannique avec des shows satiriques, dont Da Ali J Show, où il aidera à créer les personnages de Ali J, Borat et Bruno, joués par Sacha Baron Cohen. Donc, le tournage des Muppets commence en septembre 2010, principalement à Los Angeles. Les bandes annonces du film parodient des films comme Green Lantern, Paranormal Activity, Twilight ou encore Very Bad Trip.
Ils sont tous sortis environ à la même époque. Mm. Twilight est un peu plus tard, mais Very Bad Trip, Paranormal Activity, Green Lantern, c'était...
Oh, Twilight, c'est la période hein, aussi.
J'ai du mal à me rendre compte des temporalités de Twilight. Ou alors, c'est vraiment que le temps passe très vite.
Bah, Twilight, pour moi, c'est la fin de Harry Potter. Et Harry Potter, ça s'est terminé, si mes souvenirs sont bons, à autour de...
2011.
Ouais. Et Twilight, ça avait déjà commencé. Il y avait au moins peut-être même deux films
oui,
qui étaient
déjà
sortis sur Twilight. Hein. Enfin, de toute façon, s'ils ont fait la parodie, c'est que le film était sorti et que ça avait marché. Hein.
Oui, que ça a marché.
Oui, c'est sûr. Donc, sorti le 23 novembre 2011, il a engrangé 165 millions de dollars de bénéfices sur les 45 millions de budget. Ils ont quand même 95% sur Rotten Tomatoes. Et ils ont, on en parlera plus tard, gagné l'Oscar de la meilleure chanson pour Man or Muppet. Et sachant que c'est la quatrième nomination pour un film des Muppets, première fois même qu'un film des Muppets en gagne.
Sachant que 95% d'avis favorable sur Rotten Tomatoes, c'est le meilleur film Muppet niveau critique. Et le pire film, c'est Muppets les Magiciens d'Oz, qui sont à 30%. Donc pour vous donner une idée du
30%.
Mieux et du pire. Ouais, 30% c'est...
On en reviendra à la fin, mais j'ai vraiment été surpris de ce film Muppet. Je m'attendais pas à voir un truc cool. Enfin, non.
Voilà, les yeux de Pauline qui sont tout...
Non, non c'est pas ça le truc.
Là, vous êtes content d'être en live pour avoir vu ma réaction, parce que je pense vraiment...
Ah ouais. Non, c'est pas ça le truc. Les Muppets, c'est quand même connu voilà, depuis les années 70. C'est quelque chose qui est plutôt réputé. Il y a le fait que ce soit des marionnettes... Et puis c'est un peu daté quand même. Et le problème, c'est que j'étais resté sur... voilà, les années 2000, c'est le retour des Muppets. J'étais pas trop fan des Muppets. J'avais un peu regardé quand j'étais gamin. Et pour moi, c'était toujours ce truc un peu daté. Et je me suis dit, en fait, je vais regarder un film qui va surfer sur la même idée des Muppets, parce que je vois pas comment on peut renouveler le truc. Et je m'attendais vraiment à un truc un peu daté, avec un humour un peu passé. Et au final, non. Au contraire, ils se sont auto-parodiés avec... Ils sont clairement foutus de la gueule d'eux-mêmes avec les années 70.
Oui, clairement.
Quoi. Parce qu'ils se foutent de la gueule de chacun des types d'humour des personnages, je trouve ça vachement drôle. Oui, j'ai ri aux chaussures qui pètent.
Alors, j'ai pas rigolé instantanément aux chaussures qui pètent, mais c'est quand ils sortent, tu sais qu'à la fin c'est trop tragique et qu'ils partent avec Adam dans le bruit des chaussures en sortant du cinéma ou du théâtre.
Alors, j'ai aussi ri parce que c'est vrai que tu t'y attends pas à voir le prout. Mais ce que j'ai ri, c'est quand c'est pas Gonzo, c'est merde, avec le nounours. Putain, je l'ai pris. Fozzy qui arrive, et puis t'as Camille qui fait directement non, pas les chaussures qui pètent. Et puis il fait oh, et puis il part. trouvais ça drôle. Voilà.
Ouais, c'est après.
Mais non, voilà, j'ai vraiment été surpris quand j'ai vu le film. Je m'attendais pas à voir un truc bien. Enfin, bien. Oui, bien, quand une histoire qui se tienne, humoristique, parodique. Après, j'ai regardé aussi il y a 6 mois pour la première fois le nouvel chez Muppets, et ça aussi j'avais été vachement surpris.
Et maintenant, c'est le moment que Pauline attend depuis le début. Elle l'a su il y a, allez, combien de temps, 2 heures
4-5 heures
J'ai su à prévu
dans l'après-midi.
J'ai su à genre 13h30.
Ah oui, non, ça passe. Donc elle a su il y a 7 heures qu'elle allait devoir expliquer l'histoire.
When there's someone by your side to sing,
life's a happy song. When there's someone by your side to sing along.
Pauline, nous te laissons le micro.
Alors, à Small Town, donc petite ville, aux États-Unis, donc nous rencontrons Walter, un fan inconditionnel de Kermit et des Muppets en général, et décide de se rendre à Los Angeles avec son frère Gary et la petite amie de ce dernier, donc Marie. Alors, j'ai failli dire pendant un moment que Walter tapait l'incruste, mais en vrai, il se fait inviter par Gary, donc ça passe. Mais bon, l'incruste dans le voyage
Gary
romantique,
c'est... Ouais.
c'est vraiment... Et donc, il décide de visiter les studios des Muppets, parce que c'est le rêve de Walter. Et en fait, il découvre que le studio tombe en ruine et que les Muppets ont tous disparu. Alors, on peut probablement faire une blague avec l'état de la licence aujourd'hui, mais je sais pas, je peux rien trouver avec ça, donc faudra...
Je pense, oui, que surtout dans l'état où la Walt Disney Company l'a récupéré au final.
On peut dire l'état aussi que c'est aujourd'hui, hein. L'état où ils l'ont récupéré, mais l'état d'aujourd'hui est aussi bien catastrophique, hein, crois-moi.
Ils ont quand même, je me suis dit, ils ont retenté des choses, ça passe.
Ouais, mais tu sens quand même que depuis, ils ont fait deux petits spéciaux. On est en train de totalement changer de sujet. Ils ont fait deux petits trucs, mais en vrai, on est loin d'une sortie au cinéma avec des films ou des trucs comme ça. Hein. C'est...
Vous voulez donc dire que dès que Disney rachète un truc, c'est compliqué?
Et donc, pour éviter que le théâtre des Muppets soit rasé par Tex Richman, un mania du pétrole, qui va dévolir donc le théâtre pour forer du pétrole, il y a Gary et Marie et Walter, et ils partent à la recherche de Kermit, et donc ils vont chez lui pour essayer tous ensemble d'arrêter Tex Richman. Et d'après Fox News, là, c'est le petit point Fox News auquel vous vous attendez pas, c'était une manipulation de la part des libéraux et de la propagande anti-PDG et anti-compagnie d'essence.
Wow.
Je vous jure, c'est vrai, si vous faites des recherches Google, il y a carrément une interview de Miss Peggy et de Kermit pour leur demander, pour leur demander leur réaction par rapport à cette polémique, et ça a fini par Miss Peggy qui clash Fox News.
Oh, dur.
ça a fini... Non, mais on nous accuse de démonter les compagnies d'essence. C'est vraiment bizarre. C'est comme si on accusait Fox News d'être une chaîne télé. Enfin, de raconter des news. C'est fou.
Oh, dur. Ah, ils sont bons.
Ils sont forts en impro. Hein, donc. Et tu sens le performer qui fait Kermit, qui regarde et qui fait... Ça va faire parler sur Internet, en mode...
Oui.
Et donc voilà, tout ça pour dire que cette anecdote m'a fait beaucoup rire quand je suis tombée dessus. Et donc résultat, ils vont tous s'efforcer de réunir le reste des Muppets pour faire un grand téléthon et réunir 10 millions de dollars pour sauver le théâtre. Sauf que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que t'as la plupart des Muppets qui sont allés dans des chemins différents. On a par exemple Fozzie qui va jouer dans un groupe qui rend hommage aux Muppets qui s'appelle The Muppets. t'as Gonzo qui dirige une entreprise de plomberie haut de gamme. T'as Miss Piggy qui est une rédactrice de mode à Paris. Bref. Mais au final, après avoir mis en danger le couple de Gary et de Mary, après avoir kidnappé Jack Black et avoir poussé la chansonnette, ils arrivent à récolter de l'argent. Ah bah non, en fait, ils ont récolté que 9 000 $. Et tout se finit bien malgré tout, puisque t'as le méchant de l'histoire qui se prend une boule de bowling et ils décident de rendre le théâtre aux Muppets. Et donc, qui sont redevenus populaires auprès du grand public. Pendant 3 ans, après, Disney a décidé de dire non, ça vaut plus la peine de mettre du marketing dans ce film.
Ouais.
Oui, je suis salée sur Disney et les Muppets. Mais... Faites des nouveaux films.
Mais en vrai, le dernier film, il date de 2 ans. Non. Ah non, non, c'est 2015, le deuxième film. Je
confonds avec la série. 2014.
Ouais. 14. Série, première série 2015 et deuxième série 2020, c'est ça.
C'est ça, sauf que la série 2020 est tellement différente de ce qu'on... La limite, celle de 2015, ils ont tenté quelque chose. Ça n'a pas très bien marché, au moins ils ont tenté quelque chose. Celle de 2020, je ne sais pas du tout ce qu'ils ont voulu faire avec, mais c'était vraiment... Je ne connais pas beaucoup de personnes qui ont apprécié celle de 2020. Elle est tellement farfelue et va dans tous les sens que c'est pas... En fait, c'est pas, on dirait pas un truc de Muppets.
Il y a eu ce petit court-métrage sur Haunted Mansion qui était rigolo.
Par contre, oui, effectivement, c'est... C'est ça le truc, enfin c'est le truc bien, non, je suis méchante là en disant ça, mais de ces dernières années, on va dire que c'est... Tu te dis, on va espérer qu'ils vont plus tendre vers ça plutôt que tendre vers Muppets Now ou la série de 2020, quoi.
Ça serait original qu'ils fassent une traction avec les Muppets, enfin un moyen-métrage avec chacune des attractions.
Ah bah s'ils continuent dans ça, ça peut être sympa. Hein.
Dites-vous que c'est toujours moins pire que la télé des Muppets.
Oh, oui.
Attends, la télé, je sais qu'en même temps, sur TF1, ils avaient fait une voilà. émission. Avec, oh putain, avec Koé. Koé oui. qui présentait. C'était nul. C'était nul.
J'ai regardé un extrait d'une télé des Muppets avec Mimi Mati. C'est gênant. C'était tellement gênant. Et ben merci pour cette histoire, Pauline. Merci beaucoup.
Pas de rien.
Et sans, avec une transition, du coup, on va parler maintenant. De la musique. And I forget just why I taste. Oh yeah, I guess it makes me smile. I found it hard. It's hard to find. Oh well, whatever, never mind. With the lights out, here we are now. I found so bad. Here we are now. An albino.
Donc la musique du film des Muppets, la musique instrumentale a été composée par Christophe Beck qui s'est chargé de Ant-Man, de Vendavision, de Very Bad Trip, mais plus récemment, de manière plus connue, Frozen et Frozen 2.
C'est pas vraiment plus récemment.
Frozen 2 ?
Que Vendavision ?
Ah oui, c'est vrai, pardon, ouais. Les chansons originales sont de Brett McKenzie, qui est un compositeur qui a fait quelques chansons pour les Simpsons, et qui est principalement connu en fait, pour son duo musical comique Fly of the Conchords, pour qui le réalisateur avait déjà fait un documentaire. Et en tout, alors... Ce qui est assez rigolo, c'est que sur l'album des Muppets qu'on peut trouver dans le commerce, il y a 32 pistes, mais en fait, c'est 32 pistes, mais c'est 16 chansons et la réplique qui va juste avant le film. C'est assez drôle.
C'est vraiment bizarre dedans, comme choix. C'est...
Ouais. Tu sens vraiment en fait, qu'ils avaient 80 minutes, enfin, normalement, c'est 80 minutes un CD maximum, à essayer de combler et ils se sont dit, si on met que les chansons, on va arriver à quoi, 20, 25 minutes, c'est pas rentable. Donc, ils ont meublé avec une minute de dialogue à chaque fois juste avant. Et la musique en fait varie entre. Les chansons varient entre des chansons originales pour le film, le thème des Muppets qui lui est original pour les Muppets mais pas pour le film, et différents arrangements de chansons connues auparavant, telles qu'ils ont déjà fait beaucoup de fois dans les Muppets. Brièvement dessus, bah, en fait ils reprennent la chanson Smell Smells Like Teen Spirit de Nirvana, c'est dur à dire ça. Putain, ça commence les noms chiants. Donc Smells Like Teen Spirit de Nirvana en mode Muppets Barbershop, lorsqu'ils veulent raser Jack Black. J'ai eu beaucoup de mal à retrouver la chanson, c'est lorsqu'ils ont commencé à partir sur le refrain, je me suis dit mais oui.
Comment ça, c'est pas quand Picker il s'est mis à faire Mimi, 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 Mimi.
Si, non, c'est, je crois que c'est là, soit sur le refrain juste après, mais tout le début, vu que le riff de guitare est quand même significatif, tu ne remarques vraiment pas. Courtney Love était même pas au courant de qu'ils avaient fait la chanson, elle a pas trop apprécié qu'ils le fassent. Et on a Forget You aussi.
Après, c'est pas des arrangements, mais Rebuilt the City, où ils ont juste fait une cover, on va dire. Quand ils sont en train de faire le montage pour remettre en place le théâtre.
Mais je ne connaissais pas la chanson. Quand je l'ai entendue, pour moi, c'était juste une chanson originale des Muppets.
Ah ouais,
bah, alors, moi, je l'ai découvert avec le film, parce que le film, j'ai dû le voir la première fois il y a peut-être 5 ou 6 ans, donc ça fait un petit moment. Mais résultat, je me suis rendu compte qu'il y a des références à ce genre de musique, enfin, à cette musique dans d'autres séries américaines. Donc, c'est peut-être plutôt connu là-bas, je pense. Après, c'est un peu vieux, hein. Bah, de toute façon, vu le style, oui, c'est vieux. Mais je pense que, tu vois, c'est peut-être un truc qui a très bien marché aux États-Unis et pas trop en France, ce qui fait que nous on en a pas entendu parler et eux ils l'utilisent de temps en temps dans leurs séries et films.
Cet esprit un peu good vibes, tout le monde s'amuse, tout ça, et puis à la fin ils sont fatigués. très film américain. Et c'est ça, c'est un peu parodique, c'est ce qu'on dit un peu tout à l'heure, c'est au final un peu parodique, ils reprennent ça à l'ancienne. Ils vont pas faire un grand moment sérieux pour montrer qu'ils réparent le théâtre, quoi. Donc ils font ça à la légère, un peu en mode parodique.
Et puis aussi Forget You, hein, qui est l'adaptation Nice de Fuck You de Lily Allen.
Et en vrai, ça se trouve, ils chantent... Enfin non, parce que c'est dans la BO, c'est marqué Forget You, mais en vrai, ça se trouve, ils chantent la version Fuck You. Hein. On sait pas.
Comme c'est ça. Vrai.
Alors, je crois que c'est très difficile de comprendre les paroles.
Je dis n'importe quoi, c'est pas Lily Allen, c'est Silo Green.
Donc, parce que pour ceux qui n'ont pas vu de film, c'est des poules qui nous chantent...
Et donc voilà, ça c'est vraiment, donc il y a ce côté donc chanson parodique reprise mais typique Muppet comme ils avaient pu faire aussi à l'époque dans les années 2000 avec Bohemian Rhapsody, la version de Bohemian Rhapsody par les Muppets avec Animal qui fait toute la balade en mode je comprends rien.
Maman.
Et tu sens qu'il cherche sa mère alors qu'en fait le mec il a juste tué quelqu'un.
Et c'est ça, c'est pareil, j'adore trop leur manière de censurer, on va dire, tu vois, il y a des parties où ils disent on peut pas changer, bah c'est pas grave, on va être animal ou on va mettre des poulets ou on va faire autre chose et ça passe. C'est absurde et donc ça passe.
C'est super drôle. Moi je connaissais pas du tout les Muppets quasiment, à part voilà Kermit, Peggy la cochonne et voilà.
Animal.
Même pas, je connais juste ces deux-là parce que voilà, et c'est les plus connus. Et j'avoue, je me suis dit bon. En plus, c'était avant qu'on dise qu'on allait faire ce live-là. Et je me suis dit bon, j'ai rien à faire demain en après-midi. Enfin, de mon trajet en train, j'ai dit oh, je vais regarder ça. Et très très agréablement surpris. Et c'est vrai que c'est drôle, c'est frais. Et les reprises, surtout des chansons, entre autres. On parlera des chansons originales après, mais les reprises de chansons donnent vraiment un petit truc en plus, un petit truc joyeux, nouveau, frais, quoi.
Ouais, bah moi c'est parce que j'avais entendu Life's a Happy Song, qui était sur quelqu'un avait fait une parodie avec cette chanson. J'ai dit ouais, elle est vraiment sympa. Et donc j'ai voulu regarder le film Muppets, sauf que moi je travaille jusqu'au bout, donc j'ai vu ce film et j'ai fait ouais, mais attends, il y en a d'autres qui sont sortis avant. Peut-être les regarder, donc j'ai regardé d'abord les deux autres films avant de regarder celui-là.
Continuons sur les chansons, parce qu'on est en train
de discuter.
Donc le film s'ouvre par contre sur The Muppet Show Theme. J'étais surpris de l'entendre. Enfin, je crois que c'est Walter qui parle de sa vie, tout ça, donc il y a une musique instrumentale. Et d'un coup, je vois qu'on entend, c'est la première chanson qu'on entend, c'est The Muppet Show Theme. J'ai été surpris de l'entendre parce que je connaissais vraiment pas l'histoire, je me suis pas du tout spoilé le synopsis du film et tout avant de le regarder. Je m'attendais vraiment à un film Muppets, donc on va voir directement des Muppets et rien de tout ça. Et d'un coup, en fait, d'entendre la chanson, je me suis dit ah, il y a un truc qui est intéressant, parce qu'ils auraient pu ne pas reprendre la chanson du tout et puis réinventer des choses totalement originales dessus. Donc le fameux le thème des Muppets Show écrit par Sam Potter et Jim Henson. Ensuite, la chanson qui est la chanson fil conductrice du film, c'est Life is a Happy Song. C'est donc la chanson fil conductrice du film, toujours dans cette idée un peu good vibes. l'orchestration est très, très peu fournie. C'est quelque chose sur le système de couplet-refrain. C'est un truc qui se retient facilement. On a envie de chantonner. C'est très fédérateur et c'est très entraînant.
Puis surtout, les paroles, c'est absurde. Où c'est... Il marche dans la rue et puis il y a plein de gens qui lui vont lui proposer des trucs et donc ils vont se retrouver à chanter à chaque fois en disant « Ah, la vie, c'est comme un bouquet de fleurs. Mais oui, c'est parce que tu prends et tu reçois. » Puis à un moment, ils arrivent, il y en a un qui dit « La vie, c'est comme un filet de poisson. » Oui.
Ok.
et qui continue comme ça.
J'ai donc, adoré ça.
Ou autrement que tu vois, c'est vraiment la ville américaine de base. Avec à un moment, j'avais fait une pause. Je sais plus combien il y en a. Et j'avais fait une pause pour compter combien de drapeaux américains on pouvait voir, mais c'était scandaleux. C'était.
Donc pour finir avec Life is a happy song. oui, je dis le is parce que c'est trop compliqué à dire pour moi.
Life is a happy song.
C'est la première chanson qui a été écrite pour le film. Et c'est un parodie numéro de comédie musicale. Comme je disais tout à l'heure, c'est une balade avec des good vibes, un truc vraiment entraînant qui donne envie de vivre. Et moi, ça m'a fait penser à la chanson Send. Oh putain, encore un truc à dire.
c'est ta faute, hein. Moi je connaissais pas.
Send It Up My Way, la chanson du groupe The Rustlers, The Rusty. C'est la chanson du film Mathilda.
C'est trop longtemps que je...
The Rusty Root.
Ah, il me semble que je vois laquelle c'est.
Send it on my way.
Bon, personnellement, je vois pas vraiment de
rapport.
Sur le côté entraînant, vraiment sur l'atmosphère et le caractère. Et puis, tu vois, t'as les guitares, t'as un truc qui avance. Sachant que le banjo fait très bien le mélange guitare-batterie en même temps. Tu vois, un truc percussif et rythmique. Bon, bah d'accord, ok.
Mais tu as peut-être raison, mais c'est sa culture, effectivement.
Moi, ce qui me fait rire, c'est que pour Max, c'est la musique de Mathilda. Alors que, voilà, quand il l'a chantonnée, je me suis dit, c'est pas ça. Si, c'est bien la même. Moi, c'est la musique de l'âge de glace.
Oui, je cherchais, oui, l'âge de glace. J'avais plus récent.
Je
confondais aussi avec Mille et une pattes, mais Mille et une pattes, c'est les bouts. C'est Baba O'Reilly.
C'est qui?
Baba O'Reilly. Eh hey, putain, merde, tu vas voir.
Mais alors par contre, je pourrais pas vous dire dans quel moment c'est dans l'âge de glace. Genre, mon esprit sait que c'est l'âge de glace.
C'est lorsqu'il faut faire une grande ellipse temporelle et au moment il marche. Il marche longtemps, il y a rien.
Merde,
qui se passe.
Il faut faire une ellipse. Il faut faire une ellipse vite. On met une musique et il marche. Voilà.
On va faire un voyage par carte. Excellente blague.
Ça c'est très aussi. Bonne blague. Très bonne blague. Et d'ailleurs, ils font le voyage par carte et ils arrivent chez... Bon, c'est beaucoup plus tard, hein. Ils arrivent chez Kermit.
Alors, ils font pas encore de voyage par carte à ce moment-là. Non, surtout, on a été à Pictures in My Head où c'était
la chanson de Kermit, la I Want Song du film. Super chanson où Kermit regrette de ne plus voir ses copains du tout et est vraiment triste.
Et, je pense que c'était ma préférée du film.
Elle est très très belle.
C'est la plus... Ah, il y a A Man or a Pet.
Oui.
Et puis elle est vachement cool et puis au final bon, voilà, une chanson I Want Song, tout ce qu'il y a plus basique, et puis d'un coup ben, ils partent à la conquête de leurs copains. Ils vont d'abord voir Fozzie, ensuite Gonzo donc, qui travaille, comme tu as dit si joliment, pour une usine de plomberie. Clairement ils vendent des chiottes. Et par la suite ils vont chercher tous leurs copains avec, comment ils appellent ça, ils trouvent un nom précis où en fait on voit juste les images.
Bah, c'est un montage, ils disent.
Un montage. Et puis après il y a on voyage en carte. Et les voyages en carte, c'est très drôle.
J'ai beaucoup aimé le fait qu'ils sortent de la mer.
Il y a un truc qui est totalement ridicule, c'est qu'ils partent de Floride, je crois, ils partent des États-Unis, ils arrivent en France par Cannes.
Oui, donc,
ils arrivent à Cannes, c'est-à-dire qu'ils traversent le détroit de Gibraltar, ils vont par la mer Méditerranée, ils remontent à Cannes, ils traversent toute la France pour aller à Paris. Clairement, ils avaient encore plus vite à aller des États-Unis jusqu'en Normandie, parce que les Américains sont arrivés en Normandie, bordel. Ils auraient fait 250 bornes de plus, ils seraient arrivés à Paris tranquillement. Oui. Là, ils ont fait encore 800 bornes pour aller de Cannes à Paris.
Après, je pense que c'était parce que, je sais pas, Cannes, c'est connu. Oui. Après, comme ils sont pas non plus tournés à Cannes. Fallait qu'ils fassent un lieu facile à faire en 3D, enfin en 3D, en effet spéciaux, en arrière-plan.
En effet spéciaux.
Ça, on aura raison, c'est moins glam de dire ouais, on arrive par Quimper plutôt qu'on arrive par Cannes. Je sais que Quimper n'est pas en Normandie, ne vous inquiétez pas.
Quimper est à l'entour.
J'ai le ref.
Mais
c'est vraiment pas mon live ce soir. C'est génial. Je parle de trucs que j'ai vu le film, j'ai adoré. J'ai
tu connais la blague du poisson
rouge. Tout ce que je raconte. Elle tourne en rond, non? C'est ça? Je sais pas.
Alors je laisse Alex la faire. C'est lui qui s'est lancé dessus. C'est toi qui assume.
Attends, faut que je filme du début. En fait, c'est un poisson rouge. Il est dans son bocal et il dit: ouah, mais c'est super ici. Ouah, mais c'est super ici.
Il y avait du visuel, mais on n'a plus la caméra d'Alex.
Il n'y a pas de visuel, je fais juste des bruits.
Surtout, moi, ce que je trouve incroyable, c'est que la blague, elle dure trois lignes, et il a oublié la partie importante, c'est de dire « Ouais, les poissons rouges, ils ont une mémoire de 2 secondes. »
J'ai oublié de lire. Il a oublié la moitié de la blague. Il y a un tiers de la blague qui est parti.
Et puis après, dans ce montage, t'as vraiment ma blague préférée avec Rolf, donc c'est celui un peu marron qui ressemble à un chien, qui dit « Et pourquoi moi j'étais pas dans le montage ?»
Oui.
Et puis en fait, c'est juste « Hey, tu veux rejoindre le groupe ?» Ouais. Ah, c'était vraiment incroyable.
Et d'ailleurs, il dormait,
Sachant que, fun fact, même dans certaines versions qui ont été diffusées à la télé, cette scène a été totalement coupée. Donc c'était encore, ça ramène limite une deuxième couche à la blague. C'est coupé au montage. Pourquoi j'étais coupé du montage? Parce qu'il était vraiment coupé au montage jusqu'au bout.
Donc ensuite, comme je disais, on avait la chanson Mien Rouleau Down, Bas au Scolyard, qui est une chanson qui n'est pas du film.
Toujours encore une fois, tout début du film, c'est pas grave.
Et ils l'ont mis là comme ça, parce que voilà. Faut pas le faire, merde. Et donc après, on a Rainbow Connection, mais faite par les Muppets.
Alors Rainbow Connection, c'est la chanson la plus culte des Muppets. Et si on en faisait une parodie pour expliquer notre motel, pourquoi c'est vraiment le meilleur coin, qu'on a un casino et qu'on a une chapelle et tout. Tu vois quelle scène on parle, Max?
Comment?
Tu vois de quelle scène on parle?
On a vu le film ou pas?
Oui, si. Parce que non, c'est que je me souviens au moment où j'ai vu Fozzy. Au moment où je l'ai vu, derrière, je vois Peggy. J'étais en train de cuisiner au moment où j'ai regardé le film. Puis je vois Peggy la cochonne. Et puis je dis, oh, bon, en fait, Peggy la cochonne, du personnage, ils sont avec Fozzy. Et c'est après que j'ai compris que non, c'était Peggy la cochonne méchante.
C'était que des versions. Des contrefaçons, là, on peut vraiment
le dire. Oui, clairement, oui.
Après, Rainbow Connection, on peut peut-être en parler
plus tard.
Pour la reprise, ouais. Je sais pas, comme vous voulez.
Et après, on a un morceau que j'adore. C'est bon, une fois que, voilà, ils sont arrivés dans le théâtre. Tout ça, ils leur mettent à neuf un petit peu. Et on a la pauvre Marie, jouée par Amy Adams, qui est toute seule en train de bouffer. Et elle chante le Me Party, je sais plus ce que c'est en français.
C'est J'invite-moi, un truc comme ça.
Ah oui.
Il y a un truc pas français, ou tout du moins, enfin, il y a un truc
c'est
peut-être français, mais qui est tellement absurde au niveau de la construction de la phrase qu'on comprend qu'elle est désemparée et puis elle s'en fout. Quoi. Elle a un monstre que ça en bat les couilles de tout.
Oui, parce qu'à ce moment-là. Bah elle veut faire son dîner romantique, elle veut faire des trucs romantiques avec Gary, et t'as Gary qui est en mode ouais, bah, les autres ont besoin de moi, donc elle se dit bah ouais, mais moi je vais pas gâcher mes vacances, et donc elle fait elle va toute seule
et quand je
dans son restaurant.
Quand je voyais les réactions de Gary durant tout le film, en mode ah bah non, mais il faut que j'aide Walter, ah bah non, mais il est Muppets, et puis machin. Et juste au début, quand il annonce on part, c'est Los Angeles.
Oui.
On emmène Walter, et là dans ma tête, je me suis dit, mais d'accord, c'est bon, j'ai compris un peu l'intrigue du film. Et je me suis dit, mais. Et chaque fois qu'il faisait, ah oui, mais il faut que j'aille aider Walter, tout ça, je fais, non, faut pas que tu fasses ça. Mais dans ma tête, j'étais vraiment en train de gueuler, mais putain, mais tu vas te faire défoncer la gueule.
Est-ce que c'est du vécu? Je sens qu'il y a du vécu avec Max là.
Attends, est-ce que c'est du vécu? Est-ce qu'elle est sur le live ce soir? Je ne pense pas. C'est bon.
Et c'est là où?
Surprise!
Et la chanson est funk, elle est vachement cool. Et on va encore dire oui, t'as fait une comparaison à la con. Je l'ai comparé à la chanson Fink, interprétée par Aretha Franklin dans le film Les Blues Brothers. Mm. C'est la même situation, ils sont dans un restaurant, elle danse toute seule, elle dit merde à son mari, parce que dans Fink, oui. C'est la femme qui veut prendre qui veut s'imposer. C'est la même chose, et puis au final, il y a ce côté vraiment funk jazz de l'époque.
Là, on va pas te crier dessus en disant que la comparaison.
Oui, 1h15, on est d'accord sur un point.
Après ça, nous avons un truc qui est sorti de nulle part, pour moi. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est « Let's talk about me ». Donc c'est avec le
Text Richman,
voilà.
Richman,
qui fait un rap.
Et il s'appelle Richman, ça veut dire que ça se nomme Rich.
Max, qui vient de comprendre la blague.
Non, c'est pareil, j'ai trouvé ça très drôle, c'est absurde, on a compris, le Richman, c'est bon, il n'y a pas besoin de l'expliquer. Et ils insistent dessus, c'est génial.
C'est que les gars, ils ont fait, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme nom de famille, bah, Richman ou
voilà.
Et d'ailleurs, fun fact, ils lui ont posé la question à Chris Cooper en disant, parce que c'est un peu la partie où les gens ils disent, mais pourquoi il rappe, genre personne n'a compris. Et donc ils ont dit, mais est-ce que vous regrettez pas d'avoir, vous êtes retrouvé à rapper dans ce film? Et il dit, vous rigolez, les Muppets, ils m'auraient pu me demander de faire n'importe quoi, je l'aurais fait. Donc rapper pour leur film, je m'en fous.
Hein, moi j'ai envie de faire ça, ouais.
Ce rap, il sort... Oui, ouais, on va revenir.
Alors, c'est pas Hamilton, on est d'accord.
On a fait la moitié des chansons.
C'est loin d'être Hamilton.
Oui, c'est loin d'être Emmanuel Miranda, je suis d'accord. vite, il y aurait eu l'Emmanuel Miranda qui aurait composé des trucs avant les Muppets, ils auraient fait une grosse parodie de l'Emmanuel Miranda. c'est vraiment excellent, c'est que ça sort de nulle part, c'est plutôt drôle, c'est assez violent.
Puis c'est très court en fait.
En plus, on peut s'imaginer une scène qui va se développer à fond sur ce rap, faire une battle entre les Muppets et puis Richman et les Muppets. Et en fait, non, il fait sa battle, il les destroy sur le point de vue parole, et puis ils disent bon bah ok, on s'en va.
Alors faut dire aussi que la personne qui l'a écrit, c'est Ali D. Theodore, il a travaillé avec énormément le monde, dans le monde de la pop, hip-hop, rap. Entre autres, Mary J. Blige, Shakira...
Zootopie, je connais.
Après, t'as raison.
Miley Cyrus, oui. Jonas Brothers, il a aussi fait des films, des musiques pour certains films, des chansons pour certains films.
Ah oui,
comme,
Camp Rock, je connais.
Vendredi 13, Destination Finale.
Attends, t'as dit Miley Cyrus, Camp Rock?
Non,
c'est lui qui dit n'importe quoi.
Oh, non. Je parlais pour Max.
Et Alvin et les Chipmunks. Dans la version de l'album, il y a un moment opératique chanté par Nathan Pacheco où Tex Richman chante voilà, sa haine des Muppets.
Alors, sachant qu'il faut savoir que dans une première version de l'histoire, Tex Richman, en fait, il devait. Comment ça s'appelle ? En fait, il n'a jamais rigolé de sa vie. Il n'a jamais. En fait, c'est un peu censé être l'anti-Walter. En gros, il a rencontré les Muppets quand il était jeune. Les Muppets étaient invités et lui, il n'a pas du tout rigolé pendant la soirée. Et genre, à cause de ça, il y a une rancœur parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas rigoler, qu'il n'était jamais content. Et donc, c'est pour ça qu'il veut détruire les Muppets. Et c'est notamment de là d'où vient la blague avec rire démoniaque, c'est parce que lui, il ne peut pas rigoler. Parce qu'il ne peut pas. Il n'a jamais rigolé.
Okay.
Et en fait, à la base, le fait qu'il se prenne la boule de bowling, c'est censé faire en sorte qu'il peut rire pour la première fois. Ça a débloqué quelque chose. Et donc, il peut rire. Et c'est pour ça qu'il décide de tout rendre aux Muppets. C'est parce que maintenant, il peut enfin rire. Et donc, il est content. Voilà. Et tout ça, ça a été coupé du film.
Je trouve ça dommage.
Ça aurait ajouté un intérêt supplémentaire à l'histoire. Enfin, une compréhension supplémentaire, sans point de vue de Richman. Parce qu'en fait, Richman, c'est juste le gars qui veut racheter qui veut se faire encore plus de thunes. C'est un peu manichéen, basique.
Ouais, mais en vrai, moi, déjà, ça me choque pas, parce que je pense qu'à Los Angeles, des gars comme ça, il doit y en avoir.
Oh oui, il y a l'appel.
Mais c'est surtout que c'est pas le... Tu vois, le méchant, tu le vois dans trois scènes, un truc comme ça. C'est genre, c'est pas du tout le truc principal. Il fallait mettre un méchant, mais en vrai, c'est vraiment histoire de dire. Donc,
Faut quand même avouer que c'est la bagarre de méchants la plus ridicule de l'histoire. C'est vraiment... Il monte au truc. Il y a le sort de dragon qui le pousse et puis basta, c'est fini, quoi. Il y a rien de plus ridicule.
Ah, c'est souvent ridicule, les scènes de combat dans les Muppets. Hein. On va pas se mentir, ils ont pas trop le choix. Ils peuvent pas faire des trucs incroyables. C'est compliqué.
Bon, après, c'est rassurant, c'est qu'ils ont quand même choisi les personnages les plus effrayants pour faire une bagarre. J'aurais bien vu Kermit comme ça, le mec qui fait 1m80 avec une bagarre. Après cette chanson, ce rap, on a donc... le gros succès, le gros truc du film Manor Muppet. Donc Walter décide de choisir entre les Muppets ou son frère Gary. Et puis Gary décide de choisir entre sa vie d'humain ou alors suivre Walter et au final les Muppets. Ce qui fait qu'on a cette dualité très marquante à l'image et plutôt significative de... on fait une Muppet de Gary et puis on montre le personnage de Walter avec son vrai doubleur au final. C'est
non.
lui Non, c'est pas lui.
C'est Jim P, je sais plus comment. J'ai
oh là là.
C'est un acteur. C'est l'acteur
Jim Parsons.
Qui fait,
oh là là, Jim Parsons. Oui. Quelle honte.
C'est l'acteur qui fait Sheldon dans Big Bang Theory, oui. Pour rester dans les contrefaçons de.
Et au début, je me suis dit, attends,
oui,
est-ce que c'est
lui,
sa voix depuis le début? Et après, je me suis dit.
C'est ce que je viens de dire. Non, c'est, non. Donc, c'est pas lui. Donc c'est pas lui qui le dit, mais c'est lui qui le fait. Ouais. C'est dommage.
Bah, c'est parce que probablement que les performeurs, ils voulaient pas se montrer. Enfin,
c'est souvent au final hein, qu'on entend surtout les performeurs sans les voir.
C'est ça, avec que Jim Henson qui se montrait beaucoup. Frank Oz, celui qui faisait Fozzie, Animal, Piggy à l'origine. Mais c'est rare que tu les voyais à l'écran. Même, je connais leurs noms la plupart, mais je peux pas te dire à quoi ils ressemblent. Genre, je connais ouais, une grosse partie, je sais pas à quoi ils ressemblent. J'allais dire, si je les croise dans la rue, je les reconnaîtrais pas. Après, je sais pas ce qu'ils iraient foutre
dans la rue.
En banlieue parisienne. mais non, c'est pas lui. Bah, je pense que c'est parce que le principe, un peu le truc marrant avec les Muppets, c'est de mettre plein de caméos. Et donc, c'était le moment pour mettre un caméo. Tu mettais quelqu'un qui chantait bien. Et voilà.
Et d'ailleurs, il a pas eu le droit
la
de
célébrité
dire
du film.
Qu'il était dans. Enfin, tout le monde savait qu'il était dans les Muppets, mais personne ne savait ce qu'il faisait dans les Muppets. Il a pas eu le droit de le dire avant la sortie du film. Et il avait vu justement la scène où il chante, vraiment fini, montée.
Ouais.
Sur ce, en live, vraiment, à la télé. Et d'ailleurs, je vais défoncer les espoirs de Max. Ce n'était pas Jim Parsons qui chantait. C'était la voix du doubleur Peter Linz. Et en fait, Jim Parsons, c'est bien ce qui me semblait. Je trouvais ça très étrange, en fait, les mouvements. Mais a priori, ce serait Peter Linz qui a doublé la voix chantée de Walter et Jim Parsons qui a lip-synqué dessus.
Parce que t'as dit que c'était le doubleur de Jim Parsons, c'est ça?
De Walter.
Parce que le doubleur de Walter, c'est pas lui, c'est Bill Barretta, celui
bah,
de
apparemment,
Walter.
Celui qui a fait la voix chantée de Walter, c'est...
Ah, voilà. Ok.
Pour finir avec Manor Muppet, qui est donc Alex, la 11 O'Clock Song.
11 O'Clock Song, exactement, en fait, c'est
que je te laisse
dans le milieu des comédies musicales, la 11 O'Clock Song. C'est à l'époque où les spectacles commençaient, je crois, vers 21h. Ou 20h30, je ne sais plus trop, une chanson qui arrivait vers 23h. Et donc, c'est souvent une chanson très émotionnelle. C'est en fait la chanson dont le public va se souvenir. Et c'est aux 3 quarts, 4 cinquièmes d'un spectacle, et c'est la chanson dont le public va se souvenir. La chanson émotionnelle, ou alors très forte, où le personnage est en pleine... discussion avec lui-même, où il se remet en question, et c'est souvent...
Un exemple, par exemple, c'est Memory dans Cats.
Exactement.
Donc typiquement, c'est la seule chanson que les gens connaissent du film, enfin du film, pardon, de la comédie musicale, pardon, j'ai pensé au film.
Fais gaffe.
Ouais, je sais, mais moi, j'ai regretté parler du film. Non, mais je parlais de la version tournée pour être sortie en DVD, hein, bien sûr, je parlais
ouais,
pas de...
non, mais même chez Disney, c'est clairement tous les love themes qui sont réutilisés par la suite en version commerciale. Pardon, dans les Disney des années 90, parce que si on prend maintenant, Libéré délivré arrive beaucoup plus tôt que les trois quarts du film. C'est plutôt le renouveau, par exemple. Mais voilà, dans La Petite Sirène, merde, comment ça s'appelle ? Embrasse-la, dans La Belle et la Bête, c'est La Belle et la Bête.
Aladdin,
c'est le rêve bleu. Pocahontas, c'était censé être If I Never Knew You, qui a été coupé au montage. Mais voilà, c'est en général, il y a quand même des love themes, souvent.
Encore une raison supplémentaire pour dire que Pocahontas n'est pas une bonne comédie musicale, puisqu'ils ont coupé une des chansons les plus importantes.
Mais le jour où je vais mettre 40 balles pour pouvoir parler de Pocahontas sur un flanc...
Ensuite, nous avons...
S'ensuit le grand spectacle Téléthon pour les Muppets, avec donc, plein de numéros, comme je disais tout à l'heure, il y avait Smaze, Lactine Spirit, Forget You... on a le moment où Walter siffle, et donc il siffle The Whistling Caruso, qui est donc, d'après ce que tu dis, Alex, composé pour le film.
Composé pour le film, exactement.
Alors, ce moment un petit peu bizarre de, on a un show plutôt conséquent, on fait monter la pression avec Walter qui est censé faire un truc qui explose. Je m'attendais vraiment à un truc qui allait exploser, avec tout le monde qui vient, un truc extraordinaire, un gros, une grosse chorale à la fin, et il siffle. Et les gens trouvent ça, et autant il y a beaucoup de second degré, il y a beaucoup de second degré dans ce film, il y a beaucoup d'humour et d'autodérision, mais les gens trouvent ça vraiment extraordinaire premier degré. Il faudrait limite qu'on trouve ça extraordinaire premier degré qui siffle.
Alors moi, c'est
j'ai trouvé ça un peu décevant.
Moi, j'aime bien la chanson. Je trouve que c'est tu vois, je comprends pourquoi ça met du respect et tout, mais c'est juste très frustrant parce que Rainbow Connection avant, pour moi, ça aurait dû être le final. Je comprends pourquoi ils n'ont pas fait en finale. Et pour moi, ça aurait dû être le truc, parce que ça finit sur toutes les Muppets qui chantent la chanson la plus culte des Muppets. Mmh. Genre, parce que normalement, dans l'original, on en parlera après, il n'y a que Kermit qui chante tout seul. Alors que là, t'as vraiment tout le monde qui chante tous ensemble. Ça fait un côté choral, c'est vraiment... Et bah là, le résultat t'enchaîne juste après sur Walter, le petit nouveau qui est tout seul et qui siffle. Bah, t'as moins le côté waouh par rapport à Rainbow Connection.
Après, est-ce que si Walter aurait repris Rainbow Connection et puis ils auraient fait ça tout le monde ensemble sur scène, ce serait peut-être extraordinaire.
Moi, The Whistling Caruso m'a fait un petit peu penser à la chanson, alors moindre, en moins bien, je l'avoue, à la chanson opératique du Cinquième Élément.
Pas la rêve.
J'ai pas vu Cinquième Élément.
Ah ouais. Ok.
Après, bon, on va pas dire que du bien du Cinquième Élément.
Non, mais en fait, c'est un moment où il y a une chanteuse d'opéra qui chante, enfin, une chanteuse alien qui chante un morceau d'opéra, et comme c'est une alien, elle peut faire des trucs de folie qui vont dans tous les sens. Et c'est un petit peu ce qui se passe là avec le sifflement.
Cette fameuse scène, j'ai entendu parler de cette scène, je l'ai jamais vue, j'ai entendu, ce qui est pareil, elle est exceptionnelle. Enfin, c'est musicalement intéressant.
Non, je l'ai plus.
Et
qui va dans tous les sens.
Oui, ça je reconnais, c'est le générique de Oi, Mathieu Rover.
Oui, je suis d'accord sur cette comparaison.
Et donc le film se finit par une reprise de Life is a Happy Song.
Attends, on n'a pas parlé de Rainbow Connection.
Oui, il est passé au-dessus de Rainbow Connection. Mais...
Putain. Bah pourquoi The Whistling Caruso est passé juste avant?
C'est parce Alex qui l'a parlé du Whistling Caruso et je sais pas pourquoi.
Non, c'est toi Max qui en a parlé.
Non, c'est toi Alex qui en a parlé.
Non.
On mettra le clip, mais je suis presque sûr que c'est toi Alex.
Je suis sûr que non, moi. Donc Rainbow Connection, qui est le I Am Song, je suis, et qui est d'ailleurs inspiré de When You Wish Upon a Star à la base, quand ils l'ont écrit. Ils se demandaient, ils adoraient justement Pinocchio et la chanson When You Wish Upon a Star. Ils voulaient justement avoir une chanson comme celle-là.
Bah d'ailleurs, alors je sais plus s'ils l'ont fait, il me semble que ça s'est pas fait justement, mais pendant un moment, ils voulaient le mettre en tant qu'introduction pour quand on voit le logo de la Jim Henson, mais il me semble que ça s'est pas fait et qu'ils ont mis autre chose à la place, mais qu'en tout cas pendant un moment, comme When We Wish Upon a Star, ils voulaient le mettre.
Mais en même temps, je trouve que cette image là de Kermit sur son rondin de bois là et qui chante avec son banjo, elle est culte pour moi. Pourtant voilà, je connaissais pas du tout les Muppets, quoi, mais cette image est culte. Donc Rainbow Connection est malgré le fait que ça n'est pas devenu le logo, devenu culte à ce point-là.
Ah mais en plus cette chanson elle est magnifique, oui. Hein, les paroles sont vraiment incroyables. Je trouve qu'en français, pour avoir écouté très longuement la version française et la version anglaise, où je m'amusais constamment à comparer la version française et la version anglaise pour voir vraiment les différences... je suis pas fan de la version française et c'est rare. Moi, généralement, je suis celle qui dit aux œuvres de la VF, you do you, je m'en fous. Parce que là, en fait, dans Rainbow Connection, dans anglais, tu vois, ils te mettent vraiment le fait que bah il y a un côté un peu mystérieux aux arcs-en-ciel, mais tu sais pas trop pourquoi. Genre, on te dit bah voilà, l'arc-en-ciel, tout le monde croit qu'il a un pouvoir. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est pas vrai, mais au moins ça nous inspire. Et autant en profiter, tu vois, ils se posent plein de questions tout autour. Alors qu'en français, on sous-entend qu'il y a vraiment quelqu'un, genre il y a un dieu qui va te répondre, genre t'as vraiment un passage où en anglais c'est je me demande si quelqu'un là-haut entend ce que je dis, alors qu'en français c'est il y a quelqu'un là-haut qui t'entend et qui répond à tes vœux.
D'ailleurs, la phrase là que tu viens de dire, c'est la phrase préférée justement de Paul Williams, qui est l'un des deux écrivains qui a écrit la musique. C'est qui dit que tous les vœux seraient entendus et répondus. Alors, je titre littéral. Hein, quand on prie l'étoile du matin, quelqu'un y a pensé et quelqu'un y croit. Regardez ce que ça a donné depuis.
Et tu vois, ouais, j'adore cette ligne aussi, parce que tu vois, il y a un côté, bah voilà, c'est... En gros, t'as pas besoin qu'il y ait vraiment quelqu'un qui ait vraiment quelque chose de mystique. C'est juste la croyance et l'espoir qui est porté avec, et c'est ça qui est suffisant. Et en français, c'est j'ai pas les paroles sous les yeux, mais je sais que c'est un bail du style. Il y a quelqu'un tout là-haut qui t'entend et qui exauce tes vœux, et tu fais bah non. Justement, il te dit que c'est quelqu'un qui un jour a dit hey, fais un vœu, ça va s'exaucer, et tout le monde l'a cru après sans plus se poser de questions. Donc bref, c'était l'instant où je suis pas très fan de la VF, et c'est rare que je bitch, mais j'avais besoin.
C'est bien.
Quand j'ai passé 15 minutes à analyser la version VF, la VF et la VO, j'ai besoin d'extérioriser ça. Et donc ouais, comme tu l'as rappelé, à la base c'était juste Kermit sur son tronc d'arbre qui chante tout seul dans son marais. Et là, cette fois, t'as tout le monde qui chante tous ensemble, pour le rejoindre. Et t'as vraiment un côté très... Je vois des fans qui disent « La première fois que j'ai vu cette scène, j'ai pleuré parce que c'était tout ce que tu pouvais rêver comme fan. »
Oui. Donc, après Rainbow Connection, on a With Link Caruso, dont on a parlé un petit peu auparavant, et on a ensuite Life's a Happy Song, la version finale, où ils sont dans la rue. Voilà, il s'est chopé le truc sur le crâne, hein, Richman. Tout finit bien.
Non, c'est même après.
C'est après ?
C'est pendant Manamana qui se le prend. Non, mais c'est vraiment. Je comprends pas cette fin. Et je la trouve peut-être pas catastrophique, ça sera un peu exagéré, mais je. Vraiment bâclé de chez bâclé.
Mais il tombe,
c'est
pendant il tombe,
de
fin.
Ouais, il tombe, mais c'est quand il se prend la boule de bowling de Gonzo. Qui.
Qu'il accepte ?
Ouais. Là, à ce moment-là, c'est juste qu'il se rend compte que. En fait, là, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'ils sortent dans la rue et ils se rendent compte qu'ils ont plein de fans et que dans l'esprit, c'est un peu à la Thor Ragnarok, c'est pas le théâtre qui fait les meupettes, c'est le peuple. Et donc, c'est pas grave s'ils ont plus le théâtre, c'est pas grave s'ils ont plus le nom, ça en vrai, c'est plus grave, mais c'est pas grave.
Oui.
Et c'est pas grave s'ils ont tout ça parce qu'ils ont le public et ils ont prouvé que, regardez, mais à ce moment-là, ils ont pas encore récupéré le théâtre. C'est dans le générique de fin. Parce que justement, je me rappelais du film, et en le revoyant, je me dis, mais je croyais qu'il allait se prendre la boule de bowling et que c'était fini.
Vois,
et non, en fait, c'est dans le générique. C'est dans les crédits qu'il se le prend. Et je fais, mais c'est catastrophique. Surtout qu'en plus, dans une ancienne version, je trouvais que cette fin était incroyable. Je suis très frustrée qu'elle ne soit pas restée. En fait, c'était... comment ça s'appelle ? Donc le compteur était censé vraiment se terminer à 9 999 999 au lieu d'être à 9 000 euros. et donc il leur manquait juste un dollar, et c'est Stadler et jamais l'autre nom, Wardoff, bref, les deux vieux, qui donnent leur dernier dollar en disant en mode bonté de cœur, en me disant bon allez, même si on vous chie dessus 95% de l'année, 99% de l'année même, on va vous donner votre dernier mot dollar, parce qu'au final on vous aime bien un peu. Et donc c'était sans ça en fait qu'ils étaient censés récupérer leur studio, c'était pas du tout de tout le bail avec ça, c'était eux qui donnaient le dernier dollar. Et je trouvais que cette fin était beaucoup mieux.
Et très intéressante.
Parce que pour ceux qui ont vu la série ou même les autres films, les deux vieux, ils passent leur temps à chier sur les Muppets. Ils sont incroyables, hein, je les adore, mais ils passent vraiment leur temps à leur chier dessus. Même dans le film, t'as l'impression qu'ils travaillent limite avec les méchants parce qu'ils leur aident à signer le contrat pour récupérer le pétrole.
Dans Noël chez les Muppets, c'est les deux méchants. Enfin, c'est les deux méchants cons morts. Enfin.
Oui, c'est vraiment des enflures qui disent. Ou qui disent ah ouais, on leur volait de l'argent aux pauvres, t'as un gamin dans la rue qui mourait de froid, nous on leur pointait du doigt et on se marrait, c'était des trucs comme ça. C'était vraiment, ils me disaient tout le long, on était des connards, on a fini en enfer pour ça. Et donc pour dire que là, à ce moment là c'est une fin un peu mitigée, on va dire, genre ils sont contents mais c'est pas 100% contents.
En fait, c'est une fin ouverte, c'est clairement, ça peut laisser présager une suite. On a envie d'en savoir plus, on a envie en fait que les Muppets en eux-mêmes reviennent et puis refassent des spectacles comme on veut et tout ça.
Et d'ailleurs, on parlera de la suite après, mais la suite elle reprend vraiment à partir de là.
Ouais,
c'est vraiment,
j'ai pas encore vu, moi.
Ça termine sur la fin avec marqué The End, où on voit le feu d'artifice avec marqué The End. Et puis t'as quelqu'un qui dit, probablement Kermit, je sais plus qui dit, mais. Ah non, c'est Walter qui fait, mais attendez, pourquoi la caméra elle est toujours là ? Et après ils font, oh, mais en fait on a une suite. et après ça se commence à tailler les trucs en disant mais de toute façon on pourra pas faire pire que le Parrain 3. Et Disney, s'ils font ça, c'est parce qu'ils attendent Tom Hanks pour qu'il signe Toy Story 4. Cette blague est très bien vieillie, je trouve.
Eh bien, je pense qu'on a du coup... Donc, Life of Sapiesong, ils ont même fermé la rue principale de Los Angeles, de Hollywood, j'ai oublié le nom, de nuit, je crois, pour filmer ça.
Hollywood Boulevard.
Hollywood Boulevard, c'est ça, tout simplement. Et nous avons, en finale, effectivement, Mana Mana, qui est une des chansons les plus connues. Je connaissais Mana. Avant, moi. Voilà, c'est ça.
Mana.
Et on a un petit peu tous les caméos, tous les gens qui font des bonjours, des bonjours, des bonjours.
Mana Mana qui était apparue dans le premier épisode des Muppets. Je sais pas si c'est pour ça qu'elle est aussi connue, mais quand j'ai commencé à me faire les Muppets de 76-17, j'ai regardé le premier épisode et je fais « Ah, je connais cette chanson !»
Mais surtout, en fait, c'est un morceau, donc c'est qui une chanson populaire italienne composée par Piero Umiliani qui est apparu dans le film italien « Sweden, Heaven and Hell ». Ok, ça rassure énormément.
Oui, le titre est bien italien. Le titre est italien.
Et en fait, le producteur de cette chanson l'a entendu à la radio et a dit que ce serait une addition parfaite pour le spectacle.
Heureusement qu'il n'a pas été au Carnaval de Dunkerque à ce moment-là. C'était génial.
Et je pense qu'on va avancer un petit peu, si vous le permettez. Et ailleurs, il s'est passé quoi ?
Mana mana. Mana mana. Mana mana.
Donc ailleurs, mais on en a déjà beaucoup parlé, il y a eu donc le second film Opération Muppets en 2014, avec deux séries supplémentaires. Plus que ça, tu dis qui est Pauline
Non, en série, il n'y a que ça. Parce que okay. Les téléfilms, c'était avant.
Voilà, c'est ça, en fait, c'est avant que Disney ait repris, c'est ça
Non, c'était quand Disney a repris entre 2004 et 2011.
Ah, ok, il y a déjà eu des...
Il y a eu genre 4 petits téléfilms à la télé.
Ok.
Donc les deux séries, en 2015, c'est une série sur leur vie perso. Et en 2020, c'est le nouveau Muppet Show. Et donc, c'est celle-là qui n'est pas terrible, c'est ça?
C'est le Muppets Now en anglais. Et
c'est celle que j'ai commencé à regarder.
J'ai regardé que genre un ou deux épisodes de celui-là et j'ai vraiment pas accroché. Genre,
c'est bien celui où est-ce qu'ils font genre une émission de télé. Enfin, le premier épisode, c'est qu'ils font une émission de télé où t'as Kermit qui cuisine avec un. Non, t'as le cuisinier qui cuisine avec une célébrité.
C'est et ça, t'as aussi un truc avec. Le gars qui fait les drag queens, RuPaul, qui à un moment faisait une interview avec Miss Piggy, il me semble, quelque chose comme ça. Bref, il y a plein de petits segments.
C'est un peu gênant en fait. C'est très décousu et c'est un peu gênant.
Bah, en fait, c'est que dans la version d'origine du Muppets Show, t'avais certes tes petits sketchs qui déjà étaient drôles, contrairement à Muppets Now, ça c'est un autre débat. C'est surtout t'avais une histoire en fond pour retenir le truc. Alors que là, en fait, je pense que ce qui aide pas, c'est que dans Muppets Show, il y avait tout le monde était dans le même théâtre. Mmh. Donc t'avais un côté unité de scène, enfin unité de lieu.
Ça faisait plus émission télé que réelle production filmée, oui. Série télé quoi.
Alors que l'autre, t'as un côté où comme tout le monde est à distance, t'as limite l'impression que ça s'est fait pendant le Covid. Alors il me semble pas que ce soit le cas, hein. Mais peut-être. Ou genre ils ont tous fait devant un fond vert et pendant le Covid et chacun était dans leur coin en mode « Regardez, on a ça comme émission parce qu'ils interagissent pas ensemble, c'est tout le temps un côté très numérique ». Ouais.
C'est très décousu et s'il y a les transitions, enfin les interactions ensemble, c'est des transitions. Bof. C'est genre vraiment, bah tiens, t'es là et puis oh bah tu cuisines, c'est parti, on va cuisiner.
Après, des fois, il y avait des trucs qui étaient absurdes hein, aussi dans le Muppet Show des années 70, mais c'était.
Mais c'était les années 70.
Non, mais c'est surtout qu'en fait, comme déjà, ils étaient dans le même lieu, c'était plus logique d'avoir un côté ok, je panique, il y a quelqu'un qui vient de nous mettre un vent ce soir, prends le relais parce que tu vois, c'est en live, t'es devant une audience, tu peux pas. Alors que là, t'as moins cette impression, et ça... mais je sais que ça a pas très bien marché au niveau fan et tout.
Comme quoi, l'émission de Koé était meilleure.
Et donc, ensuite et ailleurs, alors j'ai seulement mis des trucs qu'il y a ou avait dans les parcs Disney et à la Disney Cruise Line, entre autres les spectacles Disney. Alors on a, entre 2016 et 2017, on avait le Muppets Courtyard à Walt Disney World.
Qui, si mes souvenirs sont bons, avait carrément reproduit l'usine de plomberie de Gonzo du film.
Ouais, c'est pas mal.
C'est pas le truc.
Enfin, je sais pas à quel point il l'avait reproduit, hein, mais j'ai vu ça, je sais pas, j'ai pas vu d'image, donc ça se trouve, ils ont juste mis un nom avec marqué vite fait le logo de la boîte et c'est tout. Hein.
C'est pas le truc, c'était pas à Disney Studio où on les voyait sortir aux fenêtres environ tous les quarts d'heure. Enfin, c'était un petit show de marionnettes tous les quarts d'heure. Et je crois que quand ça s'arrêtait, les gens ont beaucoup râlé. C'était très triste, parce que ça faisait un petit peu d'interaction.
Je pense, je sais pas si tu l'as mis, parce que c'était un peu très spécifique, mais il me semble que c'était sorti, il me semble que c'était un Noël aux États-Unis où il y avait un bus avec tous les... c'était le camion de police, il me semble, quelque chose comme ça. Donc leur véhicule de Main Street, où c'était rempli de Muppets. Je pense que justement, c'était les Muppets qui étaient normalement aux fenêtres. Mmh. Et donc, qui étaient dans ce petit camion de police pour la soirée, soit Halloween, soit Noël. Et t'avais tout le monde qui avait pété un câble en disant « Quoi ? Mais si j'avais su, j'aurais pris ma place. Est-ce qu'on peut toujours en acheter ?» Mais mettez ça en avant.
Toujours annoncer le programme en même temps qu'on vend les billets.
Mais l'avantage, enfin l'avantage, pas l'avantage, mais on voit qu'ils sont cohérents sur les parcs. Tu vois, c'est pas que en France, c'est un problème partout.
Nous avons ensuite sur la Disney Cruise Line dans le Disney Dream et le Disney Fantasy depuis 2012, a priori, Midship Detective Agency, qui est un petit jeu de détective, et il y a justement un jeu avec les Muppets qui s'appelle The Case of the Stolen Show. Un petit peu, au final, l'histoire des Muppets. Nous avons ensuite Muppet Vision 3D depuis 91 à Hollywood Studio à Walt Disney World, et entre 2001 et 2014 à California Adventure. Ça, on en a souvent entendu parler, celui-là. Parfois, c'est même une télévision 4D de temps en temps.
C'est pas un show qu'ils arrivent souvent à remettre à jour pour le garder.
Je crois que si.
Enfin,
Oui. Enfin, en tout cas, je sais qu'il est toujours bien apprécié par les... Mais il me semble qu'il a un peu... je sais pas si c'est une comparaison très flagrante, enfin très, très élogieuse. Et il me semble que c'est un peu genre le défi de César de Floride, de Hollywood Studio.
En version répète. Oh, putain.
Mais en fait, dans le sens... constamment on va te dire qu'il y a des rumeurs comme quoi c'est fini, genre cette année ça va disparaître et en fait ça c'est toujours là, mais tu vois à chaque fois on dit oh, mais ça va être annulé pour mettre autre chose à la place, et en fait à chaque fois c'est bah non, nous en fait on est toujours là, toujours vivant, toujours debout.
Nous avons ensuite alors une chose dont j'ai beaucoup entendu parler, qui a même gagné des prix, le Muppet Mobile Lab avec Dr. Benzen, je le dis très mal, Honeydew et Beaker, à California Adventure en 2007, Epcot entre 2007 et 2008, et ensuite 2016, et à Hong Kong Disneyland entre 2008 et 2013. Et en fait, c'est justement le docteur, là, dans une espèce de vaisseau qu'on voit souvent, qu'on voyait souvent, déambuler dans la rue, un petit peu notre push à nous, mais en mieux.
Il y a des Muppets, forcément, c'est mieux.
Ouais. Et en fait, ça jouait beaucoup avec le public, le mobile, justement, le laboratoire mobile avait des effets très intéressants et ça a gagné pas mal de choses. Ouais. Au niveau des spectacles Disney, nous avons eu, parce que je crois qu'il n'y a que des trucs qui n'existent plus, nous avons eu Here Come the Muppets à Disney MGM Studio entre 90 et 91, qui a été remplacé par Voyage of the Little Mermaid. Il y a eu aussi la présence de Kermit dans le spectacle Hollywood's Pretty Woman. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, et des gens ne sont...
Non, ça me fait peur.
Ouais, on est d'accord. Des gens ne sont pas d'accord. Il y en a certains qui disent que ça a commencé en 91, d'autres qui disent que c'était en 89 jusqu'en 91. Voilà. Personne n'est d'accord. À Disney MGM Studios.
En fait, c'est quoi ? Est-ce que c'est pour... par rapport au film,
non.
Pretty Woman ?
J'ai vu une photo où tu vois un... Tu vois un Mickey taille réelle avec Kermit à côté, Peggy.
En taille réelle.
Je l'ai sur le site. Sur le Mickey Disney Final... Ouais, un Kermit en taille réelle. Donc ça déjà.
J'avoue que je sais pas si c'est le meet and greet que j'aurais envie de faire.
Nous avons ensuite eu Muppets on Location Days of Swine and Roses entre 91 et 94, et j'ai même pas marqué où c'était. Ça m'aurait pas étonné que ce soit à Disney MGM Studios encore. Et l'un des plus connus, en tout cas qui est récent surtout, The Muppets Present Great Moments in American History à Magic Kingdom entre 2016 et 2019. Je finis sur les restaurants. Et donc il y a deux restaurants qui ont existé et qui existe en référence aux Muppets. On a eu le Pizzerizzo à Disney Hollywood Studios en 2016, qui a été remplacé, depuis 2016, voilà, c'est ça, qui remplace le Pizza Planet Arcade. Et nous avons le Regal Eagle Smokehouse, en référence à l'aigle
Sam,
merci. Smokehouse, qui a ouvert en 2020 à Epcot.
Et Rizzo, c'est en référence au personnage Rizzo, qui est un petit rat. On l'a vu très vite fait. Si tu sais à quoi il ressemble, on le voit dans ce film, mais il parle pas. Toi, tu le connais, Max, si tu l'as vu dans le film de Muppets de Noël.
Bah, oui.
C'était lui qui s'était notamment fait brûler sa queue, par exemple.
C'était lui qui...
C'était, vraiment...
c'était l'élément running gag du dessin animé.
Ouais. Il était vraiment incroyable, c'est vraiment toutes ces blagues.
C'est vraiment le petit point d'humour sur un film qui ne se veut pas drôle du tout.
Ouais, bah qui veut coller vraiment au bouquin,
ouais.
Donc il n'y a pas beaucoup de blagues.
Non, mais chez mes pets, j'avais trouvé ça très surprenant, je m'attendais à avoir un petit peu d'humour quand même.
Bah.
Non, pas du tout, c'est... Tu te prends
des claques dans la gueule,
et encore je trouve même un petit peu... Enfin, si, il est drôle par rapport au petit rat, tu vois, mais
oui.
Il est quand même un petit peu broyant, mais il est un petit peu plus soft que, par exemple, le Noël de Mickey, Picsou qui fait Scrooge.
Bah, le Noël de Mickey, tu vois, Mickey qui pleure, ça fait quand même quelque chose,
oui.
Hein, tout de suite.
Oui, il m'a dit tout ce film.
Mais tu sais que les fans de Christmas Carol, ils ont tendance à dire que c'est la version des Muppets qui est la plus fidèle.
La plus fidèle.
Genre... Ils sont tous d'accord pour dire le livre de Charles Dickens, les fans du livre, ils disent que c'est le film des Muppets qui est le plus fidèle parce qu'ils ont récupéré directement des citations de... Comment en fait ils peuvent avoir un narrateur, bah, y a beaucoup de descriptions qui ont pu être prises et
d'accord.
Donc ils adorent l'adaptation des Muppets, qui est marrante quand on y pense. Mais
et je l'ai beaucoup aimé, enfin, une belle surprise. Puis ben voilà, on a fait le tour de manière synthétique durant 2 heures sur.
Oui, c'est ça. Et finalement,
elle
les Muppets,
pas rajouter, hein.
C'est du flan ou c'est pas du flan?
C'est la phrase de Bouy normalement. Enfin, si Nagla encore sur le chat, est-ce que tu peux
marquer
la phrase?
C'est la phrase de Nagla.
Et du coup.
Moi c'est pas du flan.
Je partais sur un c'est du flan. Enfin, avant de voir le film, je partais sur un c'est du flan parce que voilà, comme je disais, j'avais pas une image extraordinaire des Muppets. Quand j'ai fini, j'ai été vachement surpris et j'ai trouvé ça vachement cool. Non, c'est pas du flan.
Pareil, c'est pas du flan. Les musiques sont super, l'histoire est vachement bien. C'est cool, on passe un super moment.
Et pour vous aider à savoir si c'est du flan ou pas du flan, je sais pas, c'est pas moi qui dis cette phrase en temps normal. Donc j'ai l'habitude de Nagla qui...
Tu l'as bien fait, tu l'as bien imité. C'est génial.
J'ai pas la suite, donc je sais plus ce qu'il dit après, mais...
Je l'écoute pas
à ce moment-là.
Non, le point pognon, je m'en fous, tu vois, je vais pas...
Voilà.
Un jour, je vais me donner de l'argent.
Un jour, on fera les spéciales Princesse Disney, on t'invitera. On demandera au patron de voter pour quel film Disney ils veulent, et ils voteront pas pour Pocahontas, donc on dira...
Et j'irai me faire foutre. Voilà, donc Pauline au final... On peut te retrouver sur Flan avec Nagla.
Oui.
Alex.
Eh bien, on peut me retrouver sur secretdisney.com et bien sûr sur la Disney Music Box. On peut aussi me retrouver toutes mes musiques sur Internet. Alexandre Gallet, n'hésitez pas à checker de temps en temps. Pourquoi pas, ça fait plaisir. Et toi, Max, où peut-on te retrouver?
Musicland.home.blog, là où est-ce que je fais mes analyses, avis, listes de films, dessins animés, productions, les parcs aussi. En ce moment, je suis en train de remettre à jour toute la liste des créatifs des studios Disney depuis Blanche-Neige jusqu'à Encanto. Et on peut finir là-dessus. N'hésitez pas à patreon.elabette.com. Utip aussi, vous pouvez retrouver des super goodies comme par exemple cette tasse qui me sert totalement à boire.
Ou aussi participer à, comme vous, si vous trouvez que oh là là, c'est scandaleux, j'aurais dû choisir un autre film. Ben, vous pouvez le faire.
Vous pouvez aussi retrouver ce livre, La chasse au secret de Disneyland de Paris.
Ah, c'est
bref, allez-y faire un tour, vous trouverez peut-être le bonheur.
Pour le livre, dépêchez-vous. Avant de ne plus en trouver, parce que je crois que c'est le truc qui parle le mieux sur la boutique.
Ouais.
Ah, bah ça. Attends, c'est peut-être le. Tu peux t'arrêter, hein. C'est le truc qui part sur la boutique.
Oui.
Non, il y a un mug qui est sorti. Et bientôt un deuxième en plus. Le sommage.
Ah oui, putain, c'est vrai. Merde. Non, mais, peut-être que Curien, il est parti du chat, c'est bon. Il saura pas. Et puis voilà.
Merci en tout cas, Pauline, encore.
Merci du quiz et donc de l'opportunité d'avoir pu participer, c'était cool.
Bon, puis, merci à toi, parce que moi on n'aurait pas aidé des Muppets. Je ne pensais jamais regarder les Muppets dans ma vie, je pensais jamais détailler en plus la musique, c'était l'occasion de le faire, c'est génial.
Ma propagande continue.
C'est ça, ta propagande continue. Et restez bien jusqu'au bout du générique, car vous allez entendre notre petite reprise comme d'habitude. Salut, salut tout le monde.
Salut.
Goodbye.
It's time to play the music, it's time to light the lights, it's time to meet the Muppets in the Muppet Show tonight. It's time to put on makeup, it's time to dress up right, it's time to get it started.
Why don't you get it started?
I always dreamed we'd be back here. Dreams? Those were nightmares!
It's time to get them started.
I'm the most sensational, inspirational, celebrational, meditational. This is what we do.